Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
11h pétante, bonjour, bienvenue sur Radio Territoria pour ce MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement que nous allons consacrer une fois de plus au programme DEMAT-ADS, le programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Et pour en parler, eh bien, je suis comme chaque fois en compagnie de Michel Félèbe. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et avec vous, nous répondrons aux questions des auditeurs en fin d'émission. Et puisque nous parlons du programme DEMAT-ADS, eh bien nous avons son directeur Jean-Baptiste Lanne. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Johanna.
Je le disais, vous êtes le directeur de ce programme DEMAT-ADS, le programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols, toujours au sein de la direction en charge de l'urbanisme de ces mêmes ministères. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce programme DEMAT-ADS, du programme de dématérialisation des permis de construire. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ensemble des sujets plutôt très opérationnels, puisque vous allez nous expliquer plutôt d'ailleurs, Jean-Baptiste, comment l'État accompagne les services déconcentrés et les collectivités à se préparer à la dématérialisation au travers de chantiers, les expérimentations et le déploiement, un sujet important, puisque je le rappelle, la dématérialisation des permis de construire n'est pas une option, mais bien une obligation à compter du 1er janvier 2022, et c'est demain, en application de la saisine par voie électronique, la fameuse SVE, et de la loi Élan. Toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme, que ce soit les permis de construire ou les déclarations préalables. Celles de plus de 3500 habitants devront également réaliser leurs instructions sous forme dématérialisée. On en parle avec Jean-Baptiste Lanne tout de suite.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors Jean-Baptiste, avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vais comme chaque fois vous demander quelques éléments sur la note d'ambiance actuelle concernant ce programme DEMAT-ADS.
Alors, pour la note d'ambiance, deux faits marquants ou deux tendances marquantes. La première, c'est l'intérêt de plus en plus important que le programme DEMAT-ADS suscite au niveau interministériel, puisque récemment, il y a eu un comité interministériel de la transformation publique et nous faisons partie des 10 mesures qui doivent aboutir avant, pour 2022. Donc ça c'est clairement devenu une priorité du gouvernement. Et puis le deuxième sujet, c'est que nous rentrons de plus en plus opérationnellement dans des phases de développement et de construction des différentes solutions, en particulier parce que l'échéance du 1er janvier 2022 se rapproche. J'allais même dire que le compte à rebours a commencé. Et comme nous l'avons déjà évoqué, notre ministre, la ministre déléguée en charge du logement, Madame Wargon, nous a demandé au service de l'État d'être prêt pour le 1er juin 2021, donc, c'est-à-dire dans quelques semaines maintenant. Et donc on est véritablement sous une forte pression.
Effectivement, ça va arriver très vite. Et ça tombe bien puisque ce dont nous allons parler aujourd'hui sont les expérimentations et le déploiement de chantiers qui permettront aux centres instructeurs et aux services de l'État d'être prêts à temps. Première question, Jean-Baptiste, et très simplement d'ailleurs, en quoi consistent ces deux chantiers ?
Alors, en premier lieu, dire que expérimenter et puis travailler sur le déploiement, ce n'est pas une particularité du programme DEMAT-ADS. Dès que vous êtes sur un projet qui a une ampleur nationale et qui est un peu complexe, les expérimentations et les travaux de déploiement sont naturels. Et donc, pour avoir déjà accompagné d'autres programmes, j'ai déjà vécu ces chantiers-là et dirigé ce genre de sujet. Pour se conformer à la loi Élan et à l'obligation d'instruire les demandes d'autorisation de manière dématérialisée, il y a d'abord la conception d'un certain nombre de solutions informatiques, ce que nous faisons, nous, avec Plateau, mais aussi ce que font les éditeurs de solutions informatiques des collectivités territoriales. Ils mettent en place un certain nombre de solutions. Et puis, donc là, il faut que, bien sûr, ces solutions, cet aspect, je dirais, informatique fonctionne. Et puis, il y a un deuxième sujet. Il faut que les utilisateurs et tous les types d'utilisateurs s'approprient ces solutions et se forment et font... évoluent dans leur mode de fonctionnement, voire même de leur mode d'organisation. Donc ça veut dire que l'on soit clair, on a bien deux volets, un volet technique et un volet que nous avons déjà évoqué ici, conduite du changement organisationnel. Et quand on parle, et c'est important pour la suite de la présentation de l'émission, il faut bien voir qu'on a plusieurs types de parties prenantes. On a bien évidemment les collectivités territoriales. Au sein des collectivités territoriales, on a à la fois les guichets, mais aussi les centres instructeurs, voire les autorités compétentes, donc différentes parties de la collectivité. On a les directions départementales des territoires qui ont un rôle particulier, mais aussi on a tous les services consultés. Donc on voit bien qu'on a une certaine complexité et qu'il va falloir organiser cette complexité pour pouvoir monter en puissance sur la mise en œuvre de ces solutions. Et donc tous ces types d'acteurs ont d'abord vocation, alors pas forcément tous les acteurs, mais au moins tous les types d'acteurs, des éléments représentants des entités ou des organisations ou des personnes qui représentent ces types d'acteurs ont vocation à tester finalement ces solutions. Et puis, une fois qu'on s'est assuré que ça fonctionnait, on a vocation, cette fois-ci, par type d'acteur, à les déployer, c'est-à-dire s'assurer que tous les utilisateurs, et cette fois-ci, s'approprient bien les solutions, et ça pour l'ensemble du territoire.
Alors j'imagine que ces travaux ne sont pas nouveaux hein, et font partie intégrante du programme de travail depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ils s'organisent et quel a été le planning de travail ?
Alors, nous fonctionnons sur un calendrier. Ce calendrier, il a différentes étapes. On les appelle des jalons. Si vous regardez les présentations qui sont faites sur Internet, vous verrez apparaître ces jalons sous forme de losanges dans les différentes présentations. Et ces jalons correspondent finalement à un accroissement du nombre de parties prenantes que l'on associe. On commence par un noyau dur et puis on associe un certain nombre de parties prenantes. Donc le premier jalon, donc il a déjà démarré depuis l'été 2020, et il associe d'un côté les collectivités territoriales et de l'autre côté les directions départementales des territoires. Pourquoi ces deux acteurs ? Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est évident puisque c'est sur elles que reposent les obligations réglementaires que vous avez rappelées, Johanna, en introduction. Et de l'autre côté, les directions départementales des territoires, d'une part parce qu'elles sont, pour ce qui concerne la fiscalité et pour l'instruction d'un certain nombre de dossiers, elles sont les responsables de ces activités. D'autre part, elles ont une responsabilité en termes de pilotage et de supervision de l'application du droit des sols sur leur territoire. Et en dernier lieu, c'est le réseau sur lequel nous allons nous appuyer au niveau administration centrale, au niveau ministériel, pour faire le déploiement. Donc, les travaux ont démarré cet été, au moment de la première mise en production de plateaux. J'emploie un vocabulaire qui est un peu technique. Quand on dit mise en production de plateau, ça veut dire que un plateau, je ne veux pas dire de bêtises, ça devait être en juillet, et a été a été exposé sur Internet pour pouvoir être utilisé. On l'a fait, même si on savait qu'il n'y avait pas d'utilisation au départ, mais on l'a fait parce que pour nous, ça nous permet de roder nos dispositifs de mise en production et finalement d'exposition à grandeur réelle de nos services. Alors, je ne reviens pas spécifiquement sur le rôle de plateau. Hein. Si vous souhaitez si nos auditeurs souhaitent avoir une meilleure compréhension, on a fait, je crois, la fois dernière, une émission spécialement sur quelles les différentes solutions qu'on met en œuvre. Donc, ils peuvent la réécouter. Et s'ils le souhaitent, pour avoir cette information.
Alors, concrètement, Jean-Baptiste, quel est le principe des expérimentations et puis quelles en sont les différentes étapes ?
Alors, ce que nous expérimentons au premier chef, c'est le raccordement à plateau. Et donc, la bonne transmission des dossiers qui sont déposés entre les directions, entre les collectivités territoriales et les directions départementales. Donc, c'est ce qu'on a expérimenté depuis maintenant plusieurs mois. C'est de bien vérifier que quand une collectivité territoriale dépose un dossier pour instruction, parce que c'est un dossier État, eh bien, la DDT le reçoit et peut le récupérer et peut faire l'instruction. Et puis d'un autre côté, quand c'est pour liquidation de la taxe d'aménagement, à ce moment-là, que la collectivité dépose bien le dossier ainsi que la décision et que la DDT puisse s'emparer du dossier et le liquider avant recouvrement auprès des services financiers de l'État. Alors, ça consiste en quoi les expérimentations ? Ben, c'est de tester alors à différents niveaux, plusieurs fois, avec différents scénarios, avec des scénarios dits passants pour vérifier que ça fonctionne bien, mais aussi avec des scénarios qui comportent un certain nombre d'erreurs pour voir si ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe si on est sur des erreurs ou des impossibilités pour effectivement s'assurer que tout fonctionne bien, sachant que c'est clairement dans le cas présent, ça va obliger les collectivités qui travaillent avec nous et les éditeurs de solutions à tester leur solution en amont. La solution métier, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et on fonctionne avec trois étapes. Une étape où ce qu'on appelle la simulation, c'est qu'on va tester avec des vrais utilisateurs, mais sur des faux dossiers. Alors, vous souriez sur vrais utilisateurs, j'y reviendrai, c'est important. Mais avec des faux dossiers, c'est-à-dire des dossiers théoriques, et on va voir que ça fonctionne. Puis après, on a une deuxième étape qu'on appelle en double flux, où là, on va raccorder les différents outils et on va plutôt tester des dossiers réels qui arrivent au fil de l'eau en laissant l'ancien flux fonctionner. Donc, pour s'assurer que les deux fonctionnent correctement et qu'on retrouve bien les dossiers et les mêmes modes de fonctionnement d'un côté et de l'autre, avec l'ancien flux, l'ancienne façon de faire et la nouvelle, en passant par plateau. Et la troisième phase de ces tests, c'est ce qu'on a appelé, nous, un peu le grand bain. C'est-à-dire que là, on enlève les petites bouées du double flux et on teste sur des vrais dossiers, mais toujours en étant en mode expérimental, c'est-à-dire en étant dans un mode très, très surveillé. L'objectif, c'est que tout le monde soit rassuré sur la fiabilité des dispositifs qu'on met en œuvre. Alors, je vous ai vu sourire sur vrais utilisateurs. Et je pense que c'est extrêmement important d'insister. C'est la vraie valeur ajoutée des expérimentations, c'est de tester avec des agents en collectivité, des agents en DDT, des agents au sein des UDAP. Et puis ça pourra après être des agents dans les services consultés. Voilà. Pourquoi ? Parce que il faut que la solution, ils puissent s'en emparer et que globalement, ils se disent ouais, ça marche. C'est à eux de nous dire ça marche. Si au niveau de la direction de programme et des équipes informatiques, on dit ça marche, on sait très bien ce qui va arriver. C'est que si on ne teste pas ça avant auprès de vrais utilisateurs, on risque d'avoir de grosses déconvenues. Donc pour nous, c'est important qu'ils puissent toucher du doigt la valeur ajoutée de ces dispositifs.
Où en est-on de ce premier jalon d'expérimentation avec les communes et les DDT ?
Alors, on a commencé en juillet 2020 et ça s'est terminé en février 2021. Donc, ça a été plus long qu'escompté. Donc c'est terminé. On en a tiré un certain nombre d'enseignements. On les évoquera certainement par la suite. Et on a commencé d'autres phases d'expérimentation parce que, j'allais dire, une expérimentation d'un jalon est chassée par la suivante. On est vraiment obligé d'avancer. Il y a une vraie marche en avant sur les expérimentations. À l'heure actuelle, on a 9 directions départementales qui sont concernées par ces expérimentations et on a une vingtaine de collectivités qui nous envoient des dossiers. Donc, et ça depuis le début de l'année. Ça fonctionne relativement bien. Ça permet de mettre en exergue un certain nombre de difficultés, évidemment, et là aussi de corriger un certain nombre de problèmes. Mais globalement, ça montre aussi qu'on a ces 9 DDT et puis ces quelques collectivités, cette vingtaine de collectivités qui sont prêtes à dématérialiser et à dématérialiser cette transmission et l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puisque vous nous en parlez, Jean-Baptiste, qui sont les autres acteurs et comment vont-ils, eux aussi, participer à ces expérimentations ?
Alors, on a eu l'occasion déjà d'en parler à de nombreuses reprises. La complexité de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, c'est évidemment le nombre de services qui sont consultés lors de l'instruction. Donc des services de toute nature, donc ça peut être le ministère de la Culture, mais ça peut être aussi les services départementaux incendie et secours, les SDIS ou les SDIS, et puis ça peut être aussi des gestionnaires de réseau. Donc, depuis le début de l'année, on travaille avec le ministère de la Culture. On a fait des tests, ce que j'ai appelé la phase simulation, où on a commencé à faire des tests entre des collectivités qui envoient des... alors là, c'était plutôt des DDT qui envoient des demandes d'avis au service déconcentré du ministère de la Culture et le ministère de la Culture qui récupère ces demandes d'avis, les dossiers, et qui renvoie leur avis. Et ça arrive dans les outils des directions départementales. On va faire la même chose avec des collectivités et des éditeurs. Donc ça, c'est les tests qu'on mène, c'est pour les avis du ministère de la Culture. Depuis le mois de mars, on a aussi démarré avec les services départementaux incendie et secours, donc les pompiers, les bureaux prévention incendie, qui jouent un rôle important dans la consultation d'un certain nombre de demandes d'autorisation d'urbanisme. On va écouter, je crois, un peu plus tard, le témoignage du chef du bureau prévention et réglementation incendie, le colonel Giret, au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et avec qui nous coordonnons les travaux de ces services départementaux. Donc ça, c'est le deuxième, j'allais dire le troisième jalon pour être où on élargit. Et puis on commence à élargir aussi de deux autres manières. D'une part, on a fait des tests avec l'outil, il faut se rapporter à l'émission précédente où on a décrit l'ensemble des outils, l'outil Aviso qui permet de rendre un avis sur des demandes d'autorisation d'urbanisme quand on n'a pas d'outils, quand le service consulté n'a pas d'outils. On a commencé à faire des tests et on va les poursuivre cette fois-ci, je pense, en avril-mai. C'est important, donc on va réunir des représentants de plusieurs services consultés qui peuvent être intéressés sur ces sujets-là pour voir si ça fonctionne bien et si ça correspond à leur attente. Et puis, on travaille d'ores et déjà avec un certain nombre de gestionnaires de réseau pour établir un calendrier des expérimentations avec ces gestionnaires de réseau, donc, et voir quand est-ce qu'on va travailler sur des phases de raccordement de leurs propres outils et de tests. Ce qu'on a en perspective, en particulier, c'est Enedis on a des contacts aussi avec GRT Gaz. C'est donc des intervenants qui seront en capacité au niveau national de d'émettre leur avis directement sur plateau. Alors, vous l'avez compris, et j'espère que les auditeurs me le pardonneront, je ne peux pas rentrer dans le détail de chacune des expérimentations, surtout que, Johanna, vous me demandez de faire court à chaque fois, vous me pressez, donc j'essaye de répondre à cette contrainte.
Mais vous le faites très bien.
Mais clairement, plateau, c'est le cœur d'une marguerite, et nous devons finalement associer les différents outils métiers, les différents pétales que sont les solutions qui sont proposées par les différents, qui sont utilisées par les différentes parties prenantes.
En tout cas, on voit que les choses avancent et suivent leur cours. Ces outils métiers, justement, ce sont des outils qui sont développés par des éditeurs de solutions privées, donc vis-à-vis desquels l'État n'a pas de rôle de prescription à proprement parler. Pour autant, pour que la dématérialisation fonctionne, il faut que ces éditeurs acceptent de raccorder leurs solutions à plateau. On en avait notamment parlé lors de la dernière émission consacrée à DématADS. Du coup, Jean-Baptiste, comment faites-vous pour les associer malgré tout à la démarche ?
Alors, on les a associés depuis très longtemps. La première réunion qu'on a fait avec les éditeurs un peu formelle, c'est septembre 2019. Donc, ça remonte maintenant. Ça commence à dater. C'était avant la crise. Et donc, c'était le siècle d'avant, pratiquement.
Le monde d'avant.
C'était le monde d'avant. Et c'est vrai qu'on a besoin de les associer parce qu'ils jouent un rôle absolument déterminant. D'une part, ils doivent faire évoluer leur outil. Alors, on l'avait évoqué, mais c'est important de le rappeler, mais indépendamment même du raccordement à plateau, ils doivent faire évoluer leur outil pour permettre à leurs clients, en particulier les éditeurs de solutions pour les collectivités territoriales, pour être en capacité d'honorer la loi Elan et d'accepter des dossiers de manière dématérialisée. Donc ça, ils ont ce qu'on appelle un calendrier éditorial ou en anglais une roadmap pour aboutir à des solutions qui leur permettent d'accepter les dossiers dématérialisés. Ça, ils doivent le faire. Et puis le deuxième sujet, sur un volet plus technique, ils vont devoir raccorder leurs solutions à plateau. Donc, de notre côté, nous sommes un peu, j'allais dire, dépendants, tributaires de leur volonté, de leur capacité à faire évoluer leurs solutions. C'est pour ça qu'on les a associés très tôt, pour leur dire, attention, il y a ces travaux, voilà vers où on va, voilà quelle est notre stratégie, voilà ce que l'État prévoit de faire. On leur a expliqué que si on ne mettait pas en place Plateau, ben on allait vite se retrouver avec des problématiques extrêmement compliquées pour les services consultés et les centres instructeurs. Et donc, ils se sont portés volontaires pour travailler avec nous. Et on a les 7 éditeurs qui nous ont suivis, et maintenant il y en a quelques autres qui ne nous ont pas suivis en septembre 2019, mais qui se raccrochent parce qu'ils voient bien l'intérêt de cette plateforme. Donc finalement, ce qu'on leur a démontré et ce que l'on a fait, c'est qu'on, pour les associer, on leur a démontré la valeur ajoutée de Plateau. Donc ils en sont convaincus. On a mis en place vraiment des efforts intenses d'accompagnement. On va continuer à le faire. Ils en sont pas tous exactement au même niveau, mais toutes leurs solutions. En fait, mais par contre, ces 7 éditeurs que nous évoquons ensemble, ils ont des solutions qui se raccordent à Plateau. Donc, ils sont capables de dire à leurs clients, à leur collectivité, si vous voulez, vous pouvez acquérir ou vous pouvez passer par ma solution pour se raccorder à Plateau. Donc ça, c'est plutôt positif. À ces éditeurs-là, on fait la même chose avec les éditeurs, par exemple, des services départementaux incendie et secours qui utilisent leurs propres solutions métiers. Donc ça nous fait entre une grosse douzaine, une quinzaine d'acteurs qui travaillent avec nous sur ces expérimentations.
Puisqu'on parle des expérimentations, avez-vous pu en tirer des enseignements, et puis surtout lesquels ?
Alors, effectivement, la question fermée, avez-vous pu tirer des enseignements de ces expérimentations ? J'aurais pu répondre oui, mais lesquels, je vais pouvoir un peu délayer. Alors, déjà, ça nous a permis de corriger un certain nombre d'anomalies. Puisque ça a révélé des anomalies qui n'ont pas été vues dans les phases de qualification, de recettes informatiques qu'on peut avoir sur un certain nombre de programmes. Et ça, c'est important. On s'aperçoit que quand on commence à mettre les choses pour de vrai, ou en tout cas à simuler le vrai, on fait remonter quelques anomalies. Pas énormes, mais quand même des sujets qui auraient pu se révéler pénibles et par la suite. D'autre part, ça met à jour la nécessité de coordonner les acteurs dans leurs échanges. Alors, par exemple, je vous donne un exemple qui est très, très récent. Les services du ministère de la Culture attendent une information qu'ils estiment comme étant obligatoire. Mais du côté des services consultés, ils ne transmettent pas cette information parce qu'elle n'est pas considérée comme obligatoire. Eh bien, il y a des dossiers qui partent dans la nature et on ne les retrouve pas pour le ministère de la Culture. Donc, comment fait-on ? Est-ce que c'est au ministère de la Culture, finalement, de modifier sa solution, ou est-ce que c'est aux éditeurs de modifier la solution ? Et je pense que, finalement, le programme d'EMAT-ADS, c'est l'Agora qui permet de débattre de manière très prosaïque pour trouver la solution qui est la meilleure pour tous. Comme tous les acteurs, et je remercie le ministère de la Culture comme les éditeurs, tous les acteurs sont quand même bien orientés, la solution se trouve assez rapidement. Et puis, les textes sont assez, pour le coup, clairs pour dire la donnée n'est pas obligatoire, donc c'est le ministère de la Culture qui change, ou à l'inverse, c'est l'éditeur qui doit transmettre cette information. Alors, pour nous, le meilleur enseignement, en tout cas de ces expérimentations, c'est qu'on a pu constater de visu que le concept fonctionne et que les agents des collectivités et de l'État sont satisfaits des solutions qu'on propose. Alors, quand je dis qu'ils sont satisfaits, ne nous méprenons pas. Ils sont critiques sur la qualité à l'heure actuelle des solutions, mais ils se rendent compte, avec les échanges qu'ils ont entre collectivités, services consultés ou avec les directions départementales, que ça va leur amener beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'ils pressentent très rapidement que si tous les acteurs d'un territoire sont bien raccordés à Plateau, ça va être beaucoup plus facile. Et ils font la comparaison par rapport à la situation qu'ils ont vécue lors des confinements et qu'ils vivent encore. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ben, ça nous outille ». Donc, nous, ça nous a permis de dire, finalement, ça a validé le concept, ça a validé l'idée par ces expérimentations. Les retours qu'on a sont plutôt positifs. Je ne dis pas que tout fonctionne. Hein. Je ne voudrais pas qu'on laisse, que ce soit un message qui soit positif. Le message, il est vraiment positif sur l'idée. Donc, nos collègues, les DDT, les collectivités qui participent, valident l'idée. Ils comprennent la volonté de l'État. Et on a finalement des acteurs qui sont très alignés sur les objectifs.
Puisqu'on parle de ces expérimentations et qu'on a parlé du volet plutôt informatique, hein, du déploiement des outils, comment est-ce que l'État prend en compte la dimension humaine de l'évolution des organisations et des modes de fonctionnement ?
Alors, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tests et d'outils, parce que c'est quand même la dématérialisation par nature, c'est de l'informatique. Mais il y a tout un accompagnement des acteurs, et puis c'est un accompagnement, veuillez m'excuser, qui doit se réaliser sur l'ensemble du territoire. Donc, en premier lieu, d'abord, il faut évidemment que toutes les collectivités et tous les acteurs du programme aient une connaissance de la démarche, de leurs obligations, mais de la démarche que nous menons. Pour ce faire, nous avons fondé notre action sur un ancrage territorial fort, et en particulier sur le réseau des directions départementales des territoires et, le cas échéant, de la mer. Et ce sont les DDT qui vont jouer finalement le rôle de relais auprès des collectivités et des acteurs de l'instruction sur leur territoire. Alors, d'abord, ce rôle de relais, c'est de la coordination, coordonner l'ensemble des parties prenantes en fonction des spécificités du contexte local. Vous pouvez avoir des départements où vous avez des gros centres instructeurs mutualisés, d'autres où vous n'avez pas de gros centres instructeurs mutualisés. Nous avons des départements très ruraux, il y a des départements qui sont très construits, et vous n'avez pas du tout la même typologie d'acteurs. Il y a des départements où l'instruction se fait beaucoup en direction départementale, puisqu'il n'y a pas de documents, beaucoup de communes sont soumises au règlement national de l'urbanisme, tandis qu'il y en a d'autres où, globalement, le rôle de la DDT, c'est plutôt la liquidation. Donc on voit bien qu'on a une grande diversité et qu'on ne va pas avoir le même type d'action à mener. On ne va pas avoir non plus le même calendrier. Et donc, une des premières demandes auxquelles ont répondu les directions départementales, c'est d'établir des feuilles de route. Les feuilles de route, c'est se dire, pour le 1er janvier 2022, quelles sont les actions à mener, où est-ce qu'en sont les collectivités, est-ce qu'il y a des collectivités qui sont prêtes, est-ce qu'il y en a qui sont en attente, est-ce qu'il y en a qui sont dubitatives, pour ne pas dire réfractaires à la démarche, et comment on peut accompagner ces différentes collectivités. Et après, de faire le tour aussi des parties prenantes principales. Donc, où en est l'UDAP, que pense le service départemental incendie et secours, est-ce que vous avez des gestionnaires de réseaux particulièrement importants, par exemple un syndicat départemental d'assainissement ou d'énergie qu'il va falloir mettre dans la boucle. Tous ces interlocuteurs, c'est pour la direction départementale, c'est d'avoir une vision, de construire cette vision-là, qui est une vision évidemment qui va bouger avec le temps, et qui est tout à fait dynamique, mais qui permet de se projeter et de se dire voilà les actions qu'on va mener. Il existe déjà beaucoup d'initiatives qui sont faites par les directions départementales. Il y a ce qu'on appelle les clubs ADS, qui sont l'animation de l'application du droit des sols qui sont faites par les DDT au sein des territoires, qui regroupent les centres instructeurs et qui peuvent même les élargir. Et nous, au niveau administration centrale, on met en place, grâce à notre site Osmose, toute la documentation et le support nécessaire pour les directions départementales. Donc on les outille, on répond à leurs questions, on anime, et on les anime, j'allais dire, de manière hebdomadaire. On a des réunions où on essaye de répondre à leurs questions, qu'elles remontent du terrain, pour qu'elles soient en capacité de mener cette action au niveau local. Alors, ça, c'est le rôle des directions départementales qui nous sert à relayer cette activité de déploiement. Et c'est vrai que quand nous, on fait un document ou qu'on fait une action, on investit, j'allais dire, 1 euro ou 1 heure, le fait d'avoir un réseau, ça permet de démultiplier notre action. Et puis, en plus de ça, ça permet aussi, c'est clair, quand on propose un document, généralement, quand il est fait en administration centrale, on a des retours de la part des directions départementales qui nous disent mais votre truc ça marche pas, ou vous prenez pas en considération les bons sujets. Donc on a un vrai dialogue. Et puis en dernier lieu, les directions départementales doivent aussi évoluer. Elles doivent utiliser les différentes versions de l'outil qu'on met à leur disposition. Elles doivent se former à la dématérialisation, à cet accompagnement qu'on leur demande. Donc il y a aussi une propre trajectoire pour elles-mêmes. À date, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les directions départementales ont fait une feuille de route, pratiquement toutes. La moitié d'entre elles, voire beaucoup plus que la moitié d'entre elles, se sont équipées en matériel informatique. Et puis nous, au niveau de la direction de programme, avec les institutions de formation du ministère, on a lancé les campagnes de formation. Donc on est véritablement dans la préparation du 1er juin et du 1er janvier 2022.
Est-ce que vous êtes confiant vis-à-vis des échéances qui se rapprochent? Vous nous avez parlé tout à l'heure de celle du 1er juin hein, pour les services de l'État. C'est très, très court, ça. Et puis celle qu'on connaît du 1er janvier 2022 pour tous les autres. Est-on prêt pour DMAT-ADS?
Alors, je vais commencer parce que c'est plus simple par la plus lointaine. Ça fait moins peur, on est d'accord. Pour le 1er janvier 2022, nous serons prêts. Je fais un nous très collectif. D'abord parce qu'on fait vraiment en sorte que tout soit prêt pour le déploiement dans les territoires et que ça suive son cours pendant tout finalement les trois trimestres qui nous séparent du 1er janvier 2022. Et puis je pense qu'il faut qu'on soit prêt parce que au 1er janvier 2022, il y a un certain nombre d'usagers, de citoyens, de personnes morales qui vont venir voir les collectivités, qui vont leur dire mais nous on veut déposer de manière dématérialisée. Comment je fais? Comment faisons-nous pour déposer de manière dématérialisée? Donc il faudra à un moment répondre à cette question extrêmement, extrêmement concrète. Donc on doit être prêt, pas seulement l'État, mais aussi l'ensemble des acteurs de l'instruction. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un vrai effort des directions départementales, mais aussi de l'ensemble des services déconcentrés du ministère de la Culture pour s'engager dans la démarche. Et puis je remercie mes collègues des départements et du ministère de la Culture de leur implication. Et parce que là, l'échéance auquel ils doivent, que nous allons respecter, c'est celle du 1er juin. Et je pense qu'on va réussir à être prêt à ce que si une collectivité souhaite anticiper la date du 1er janvier 2022, on puisse lui dire oui. Je veux dire, on est prêt, on peut vous accompagner, c'est possible. Voilà, exactement. Anticiper, c'est possible. Du côté du chantier technique, ça fonctionne. Et donc Plateau fonctionne. On en est à la V3. Elle a été publiée. Puis on va publier le 15 avril une V4. Donc, mettre en production une V4. Donc, ça fonctionne. Et puis, concernant les éditeurs des collectivités territoriales, ils ont tous une solution, comme je l'ai dit, qui se raccorde à des versions de Plateau. Après, ils ont leur logique industrielle et commerciale qui fait que il faut qu'ils arrivent à gérer les différentes contraintes et les différentes obligations auxquelles ils sont soumis. Et en particulier, c'est eux qui décident du choix de la version sur laquelle ils vont raccorder leur propre solution. Donc, en tout cas, on travaille véritablement en réelle coopération avec eux et ça reste des interlocuteurs qui sont très, très moteurs dans la dématérialisation.
Pour le 1er juin ?
Pour le 1er juin.
Les collectivités qui veulent s'engager, est-ce qu'elles peuvent rejoindre les expérimentations ou travailler à la mise en œuvre de la dématérialisation encore ?
Alors, merci de cette question, Johanna, parce qu'elle va me permettre de repréciser les termes et de les différencier entre expérimentation, anticipation et préparation. Sur les expérimentations, j'allais dire qu'on recrute plus beaucoup de collectivités territoriales parce qu'on a déjà beaucoup de volontaires, on a déjà des directions départementales. Et donc, en ce qui concerne les expérimentations au sens laboratoire du terme, c'est nous plutôt qui allons chercher avec certains partenaires, en particulier la FNCCR, qui allons chercher des exemples de collectivités ou de services consultés sur lesquels on a quelque chose de particulier à expérimenter qu'on n'a pas encore fait.
Juste Jean-Baptiste, un petit mot, la FNCCR.
Ah oui, excusez-moi, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.
Parfait.
Donc c'est une association qui regroupe toutes les concessionnaires de services publics au niveau des collectivités.
Voilà, comme ça, tous nos auditeurs.
Oui, oui, oui. Vous avez raison, je jargonne. Par contre, donc voilà, pour les expérimentations, il n'y a plus véritablement de recrutement. On ne fait plus d'appel au volontariat. Par contre, ce qui peut être intéressant pour certaines collectivités qui sont déjà bien matures sur leur dispositif, c'est de se dire qu'elles vont anticiper la date du 1er janvier 2022. Cette anticipation leur permet de faire quelque chose, c'est-à-dire d'avoir une montée en puissance progressive. C'est de se dire on va commencer par tel type de demande d'autorisation d'urbanisme et puis de se donner plus de temps pour faire cette montée en puissance plutôt que de se dire au 1er janvier 2022, il faudrait que je sois prêt théoriquement. Donc là, ça c'est important. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est prêt le 1er juin 2022. C'est pour pouvoir accueillir ces anticipations, donc expérimentation, anticipation, et même celles qui se disent « Oh là là, je ne vais pas anticiper parce que je ne suis pas prêt tout à fait », là, elles peuvent avoir une grosse activité de préparation. Et je pense que ça, c'est important. Elles peuvent commencer à faire un certain nombre de choses. On l'a déjà décrit. Elles peuvent prendre un compte osmose, comme on l'a déjà préconisé. Elles pourront trouver un certain nombre de documentations. Elles peuvent aussi aller voir un certain nombre de partenaires, que ce soit le CNFPT pour les aspects formation et conduite du changement que nous avons interrogé, Madame Caron, que nous avons interrogé ici. L'UGAP aussi. Nous avons un partenariat avec l'UGAP pour un certain nombre de solutions et de besoins. Donc, même si on n'est pas dans l'anticipation, il ne faut pas attendre d'être le 1er janvier 2021 pour se dire je m'y mets. Hein, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Donc, à ce titre, si vous voulez avoir un bon écho pour les collectivités qui nous écoutent, le 9 avril, l'AMF et la DCF organisent un webinaire sur les premiers retours des expérimentations et plus largement des collectivités qui sont rentrées en dématérialisation. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez pouvoir poser des questions ou avoir des témoignages de collectivités. Donc l'AMF et la DCF organisent ce webinaire le 9 avril matin.
Alors parlons un peu calendrier si vous le voulez bien, Jean-Baptiste, quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, les prochaines étapes, nous, on va sur les expérimentations. On pense que ça va encore se poursuivre un certain nombre de cycles de tests à l'été. Et puis, on aura après des choses un peu plus restreintes et plus confidentielles en termes d'expérimentation, parce qu'on aura quand même fait le tour de notre solution. Et puis, par contre, ce qu'on pense, c'est qu'en septembre, je dirais à la rentrée de septembre, parce que bon, l'été, c'est l'été, on aura quand même de nombreuses collectivités qui vont commencer à se raccorder. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir une vraie montée en puissance. En juin, ou peut-être on aura quelques collectivités qui vont être là un petit peu avant, mais vraiment, pour nous, c'est le dernier quadrimestre qui va être le plus important. Et d'ici là, nous, on continue au maximum pour accompagner l'ensemble des collectivités et des directions départementales dans cette grande transformation.
Merci Jean-Baptiste pour toutes ces nouvelles explications et précisions sur DMAT ADS. Et pour compléter vos propos, je vous propose d'écouter, vous nous l'avez un petit peu introduit tout à l'heure, le colonel David Géré. Il est chef de prévention et de réglementation incendie au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise au sein du ministère de l'Intérieur. Il nous parle de ce programme DMAT ADS et de son rôle dedans. On l'écoute et on revient juste après. Nous sommes donc, comme promis, avec David Giré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est le rôle des SDIS dans l'instruction des autorisations d'urbanisme en version dématérialisée ?
En premier lieu, et au regard du programme DMAT ADS, les services d'incendie et de secours peuvent être consultés lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme au titre des dispositions du Code de l'urbanisme. Plus précisément, l'avis du service d'incendie et de secours porte sur les conditions d'accès des engins de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet par les voies publiques ou privées, d'une part, et sur le réseau d'eau pour faire face à un éventuel incendie, d'autre part. Ce second aspect, qu'on appelle la défense extérieure contre l'incendie, fait l'objet d'une police du maire introduite dans le Code général des collectivités territoriales en 2011. En second lieu, il faut relever que les services d'incendie et de secours sont plus particulièrement sollicités dans le cadre de procédures prévues par le Code de la construction et de l'habitation. Ainsi, en parallèle de la procédure d'urbanisme, les autorisations de travaux concernant la création d'établissements recevant du public d'une part et d'immeubles de grande hauteur d'autre part doivent faire l'objet d'un avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, commission de sécurité, à laquelle participent les services d'incendie et de secours et qui permet de s'assurer de la conformité des projets au règlement de sécurité incendie. Donc concrètement, s'agissant des établissements recevant du public, l'autorisation de construire valant également autorisation de travaux, la dématérialisation complète de toutes les procédures paraît donc à terme inéluctable et souhaitable afin d'homogénéiser les flux et les modes de traitement de ces demandes.
Comment la Direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises est impliquée dans le programme des MATADS ?
Bien, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et plus particulièrement le bureau prévention et réglementation incendie dont j'ai la responsabilité, en lien avec l'équipe projet de la DGALN et en écho à l'expérimentation territoriale qui est par ailleurs déjà engagée auprès de certaines DDTM, a intégré le comité de pilotage interministériel du projet plateau à l'automne 2019. Elle y assure un rôle de tête de réseau en faisant valoir les enjeux et les besoins des services d'incendie et de secours dans le cadre du programme des MATADS. Ainsi, elle peut accompagner de la manière la plus efficiente possible les services d'incendie et de secours dans cette transition numérique. Par exemple, lors d'un colloque national destiné aux responsables prévention de l'ensemble des services d'incendie et de secours du territoire national en début d'année 2020, mon bureau a fait intervenir le directeur de programme, M. Lannes, pour présenter les enjeux de la démarche. Ensuite, une enquête nationale dont l'objectif était d'évaluer l'impact de la dématérialisation dans les services d'incendie et de secours a permis d'élaborer un rapport qui a été diffusé largement et qui a apporté des réponses aux premières inquiétudes qui étaient exprimées. Toujours en lien avec la direction de programme, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a par ailleurs retenu 11 services d'incendie et de secours pour l'expérimentation de plateau et 6 services d'incendie et de secours pour l'expérimentation de la solution Aviso. C'est une expérimentation dont la Direction générale assure la coordination. Elle mobilise également les éditeurs de logiciels. Son exploitation permet de faire bénéficier le plus grand nombre de services de ce retour d'expérience. Enfin, il faut également noter que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France accompagne cette démarche en animant des groupes de réflexion sur les impacts fonctionnels du projet pour les services d'incendie et de secours, par exemple sur la nomenclature des pièces formant le dossier dématérialisé. Ça permet d'enrichir les propositions concrètes et utiles aux acteurs de terrain qui sont portées par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises auprès de la direction de programme.
Comment est-ce que les SDIS accueillent la dématérialisation des autorisations d'urbanisme ?
La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises n'est pas, en tant que telle, le porte-parole des SDIS de France, qui sont des établissements publics autonomes. Néanmoins, dans le cadre de son rôle de tête de réseau tel que je viens de l'expliciter, la DGSCGC a réalisé une enquête auprès des services d'incendie et de secours qui a permis d'identifier leurs principaux points de vigilance, qui portent premièrement sur la nécessité de réorganiser en partie les services et de revoir les procédures avec la difficulté inhérente à la persistance d'autres flux de consultation, notamment papier. Deuxièmement, sur la conduite du changement lié à cette réorganisation et à l'appropriation des nouveaux outils informatiques qui nécessitent une formation spécifique des agents. Troisièmement, sur la définition technique des fonctionnalités de la plateforme et des modalités de raccordement dont la connaissance précise leur est nécessaire pour se préparer à l'échéance du 1er janvier 2022. Et enfin, le financement des logiciels, des équipements, des installations informatiques qui restent à la charge des services d'incendie et de secours qui sont, rappelons-le, des établissements publics autonomes bénéficiant d'un financement principalement assuré par les collectivités territoriales. Alors, au-delà de ces préoccupations réelles mais conjoncturelles puisqu'elles sont inhérentes à la transition numérique, il n'en demeure pas moins que les services d'incendie et de secours sont conscients du service ainsi apporté aux usagers et du fait que le recours à la dématérialisation, dans ce domaine comme de manière générale, dans tous les champs d'activité de la société, ira croissant. À terme, cette dématérialisation permettra aussi d'optimiser les processus d'instruction et d'avoir accès aux dossiers actualisés quasiment en temps réel. On peut donc raisonnablement dire, sans préjudice des adaptations et des difficultés transitoires qui sont liées à l'appropriation de ces nouveaux environnements numériques, que les services d'incendie et de secours partagent l'objectif final recherché par le projet DMAT-ADS et souhaitent même que ce soit rapidement l'ensemble des procédures d'instruction auxquelles ils contribuent qui fassent l'objet et bénéficient de ce traitement dématérialisé.
À date, quelles sont les actions en cours ?
Alors, les actions en cours visent trois finalités. En premier lieu, assurer le suivi du programme en participant aux réunions bilatérales du comité exécutif et du comité de pilotage ministériel et en faisant remonter des éléments de synthèse sur la situation et les attentes des services d'incendie et de secours. En second lieu, il faut garantir une information circulaire sur le projet DMAT-ADS et à cet effet, un site de communication collaboratif dénommé OCMI, offre collaborative du ministère de l'Intérieur, a été mis en œuvre. Il permet la valorisation du retour d'expérience. Il est accessible aux services d'incendie et de secours et permet de les informer. Mais ça permet également de faire remonter les difficultés à la direction de programme. La mise en œuvre d'une messagerie instantanée CHAP spécifique au projet DMAT-ADS est également à l'étude. Enfin, il est indispensable de continuer à accompagner les services d'incendie et de secours dans la démarche. Et outre une note d'information offrant un état détaillé des enjeux et des échéances qui a été diffusée en début de cette année 2021, une foire aux questions spécifiques est en cours de finalisation et sera diffusée prochainement. Autre illustration de la démarche d'accompagnement adoptée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, un catalogue de matériel et de services, y compris une offre d'accompagnement à la conduite du changement, qui est une dimension importante, a été élaborée en collaboration avec l'UGAP. Elle a été transmise récemment au service d'incendie et de secours et ceux-ci pourront, s'ils le souhaitent, s'en saisir. Certains ont d'ailleurs déjà commencé à le faire. Enfin, un accompagnement financier via France Relance est également à l'étude et constituerait un signal utile pour valoriser la démarche auprès des acteurs locaux.
Merci David Giré pour toutes ces précisions. Merci. Voilà pour l'interview du colonel David Giré, chef de la prévention et de la réglementation incendie au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise au sein du ministère de l'Intérieur. On va pouvoir à présent passer aux questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Vos questions toujours très nombreuses sur ce programme DMAT-ADS. On va voir ça tout de suite avec Michel Félep.
Oui, merci Johanna. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Donc, on va choisir la question d'un auditeur en collectivité territoriale qui nous demande quelles aides financières peuvent avoir les collectivités territoriales pour mettre en place cette obligation de dématérialisation pour du matériel, de l'évolution des logiciels et la maintenance annuelle.
Alors, il y a des aides qui sont prévues dans le cadre du plan France Relance. Donc, il y a des guichets qui ont été ouverts. Donc, vous pouvez transformation numérique des territoires. Et il y a déjà des guichets sur lesquels vous pouvez déposer des demandes de financement. Donc, il y a peut-être d'autres dispositifs qui sont à l'étude, mais il est trop tôt pour en parler. Mais vous avez déjà des possibilités de financement pour les collectivités. Ça va dépendre un peu de votre taille et de votre périmètre, mais pour, j'allais dire, des collectivités de taille, pour pas des métropoles, en fait, pour des collectivités qui ne sont pas des métropoles, vous avez la capacité d'avoir des premiers financements.
Une autre question, Michel ?
Merci. Donc, on va prendre une autre question, exceptionnellement pour vous, Johanna. Emmanuel nous demande où sont donc passés les enregistrements des précédentes émissions, puisque sur le site, on ne retrouve que les toutes dernières.
Alors, effectivement, si vous êtes des habitués de Radio Territoria, vous avez sans doute entendu déjà passer le message d'information. Nos serveurs se trouvaient, dans les bâtiments OVH qui ont été incendiés à Strasbourg il y a quelques semaines. Ils n'ont pas encore été relancés. Donc on n'a pas encore pu récupérer, en tout cas de manière automatique et informatisée, tous les podcasts. On est obligé de les réinjecter manuellement, ce qui demande un petit peu de temps. Normalement, tous ceux qui ont été publiés pour l'année 2021 sont déjà en ligne. Vous pouvez déjà les retrouver et les autres arrivent évidemment très bientôt.
Merci. On a le temps pour une nouvelle
Allez,
question.
Une petite dernière.
Alors, une petite dernière. Donc, Azel nous demande qu'en est-il de l'archivage des dossiers au bout de 10 ans suite à la mise en place de la dématérialisation. Donc là, on voit loin, loin en avant.
Non, alors, c'est vrai que dans 10 ans, j'ai un peu plus le temps que pour le 1er juin 2021. je vais faire une réponse relativement courte, quitte à renvoyer à une émission où on prendra plus de temps pour répondre aux problématiques d'archivage. L'archivage, il y a une problématique réglementaire, c'est que, qui est même liée à la loi, qui est de dire que l'archivage dépend, la responsabilité de l'archivage, c'est les collectivités territoriales. Et donc, il est important que les guichets uniques, les communes, archivent bien leurs demandes d'autorisation d'urbanisme et si elles les ont de manière dématérialisée, qu'elles réfléchissent à cet archivage de manière dématérialisée. Par contre, du côté de Plateau, on voit bien que Plateau étant au centre, il pourrait être intéressant de réfléchir à une solution d'archivage mutualisée. Mais cette réflexion n'est pas lancée pour le moment, même si beaucoup de partenaires, de parties prenantes nous pressent de lancer cette réflexion. Elle n'est pas lancée. Et nous allons déjà travailler à la solution d'archivage pour le métier des directions départementales des territoires et de la mer, donc finalement la responsabilité de l'État. Puis après, l'archivage pour la responsabilité en termes d'intermédiation que nous prenons avec Plateau, puisqu'on fait des échanges entre les différents acteurs. Donc tous ces événements, ces échanges de données, on va essayer de les... les archiver. Et en troisième position, on fera la tournée, j'allais dire des popotes, pour voir s'il n'y a pas des besoins d'archivage qu'on pourrait mutualiser, j'allais dire directement, depuis Plateau. Mais, et c'est là où c'est important, on va achoper sur la problématique réglementaire que j'évoquais initialement, c'est-à-dire il faudra modifier les textes. Si c'est une responsabilité des collectivités, qu'à un moment on dit que pour les demandes d'autorisation d'urbanisme, on ne procède plus de la même manière, il faudra modifier. Donc il y a un vrai chantier un peu plus compliqué. L'informatique, c'est compliqué, mais le changement des textes au sein de la législation française est aussi très compliqué. Donc on aura une vraie question, une vraie instruction du sujet. Pas simplement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue réglementaire.
Merci Jean-Baptiste pour ces explications et merci à vous Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui. On parlait à nouveau du programme DEMATADS. Les émissions précédentes sont disponibles en podcast, en tout cas pour celles de l'année 2021. Les autres arrivent très très vite d'ailleurs, DEMATADS et même tous les autres sujets qu'on aura abordés dans ce MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro sur DEMATADS. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste Lannes et sous celui de Michel pour dire qu'on se retrouve très vite avec un nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je vous souhaite une très bonne journée en restant à l'écoute de vos territoires.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.